Voilà, Franck, qui est responsable de l'Assemblée de Saint-Victoré, il va nous apporter le message de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, Franck.
Je suis heureux d'être là parmi vous, ça me fait plaisir. De toute façon, j'aurais préféré venir vous visiter.
Eh oui.
Parce que même si c'est vrai que j'ai l'habitude des Zooms, mais c'est quand même différent.
Eh
D'être
oui.
en Zoom, d'être à l'église, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on perd quand même une certaine dimension, on perd cette communion, cette relation qu'on a ensemble. Mais malgré tout, on a quand même cette chance d'avoir la possibilité, même dans des moments difficiles comme ceux que nous vivons, de pouvoir nous réunir à travers ces applications. Donc, on peut remercier un petit peu la technologie qui avance. Ce soir, Dieu a mis dans mon cœur de vous parler de quelque chose que tous les chrétiens, finalement, vont vivre. C'est une course glorieuse que nous devons remporter durant notre vie. À plusieurs reprises, la parole de Dieu va comparer la vie chrétienne à une course d'athlétisme. Et comme dans chaque course, eh bien, nous allons retrouver un point de départ et un point d'arrivée. Un point de départ qui va symboliser notre nouvelle naissance et un point d'arrivée qui va représenter le retour de Jésus ou la fin de notre courte vie terrestre. Et si l'on lit la parole de Dieu, on va voir que quelque temps avant sa mort, l'apôtre Paul va adresser une deuxième lettre au jeune Timothée, qui était à l'époque le pasteur d'Éphèse, dans laquelle il va lui dire que depuis sa rencontre avec Jésus, eh bien, il n'a cessé de combattre le bon combat de la foi, mais que désormais, il arrivait au bout de cette course. Et même si cette course spirituelle a été difficile pour Paul, et il va le dire, il l'a toujours considérée comme une course glorieuse. Et son but dans la vie, eh bien, n'a été tourné que vers la récompense qu'il allait recevoir en remportant le prix. Et Paul dira lui-même, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, il dira, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. En d'autres termes, Paul expliquait qu'il courait vers la vie éternelle dans le paradis par la communion qu'il a en Jésus-Christ. Frères et sœurs, si nous sommes véritablement convertis et que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, alors nous aussi, nous avons pris part à cette course spirituelle dont l'apôtre Paul eh bien, nous parle. Et pendant toute la durée de notre vie sur terre, nous allons sans cesse être confrontés à une pensée mondaine, à des puissances qui vont essayer de nous décourager afin de nous empêcher de faire une chose, c'est de franchir la ligne d'arrivée et de remporter ce merveilleux prix de la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle nous devons à tout prix eh bien, être vigilants pour pouvoir gagner cette course. Mais il est important de savoir aussi quelque chose de très important, c'est que cette course ne peut être gagnée que de manière légitime. C'est-à-dire, elle ne peut être gagnée que si l'on respecte les règles pour ne pas être disqualifié. Et lorsque je parle de respect des règles, eh bien, vous le savez, je parle bien sûr du respect et de l'application de la parole de Dieu dans notre vie, du respect et de l'application de la doctrine que Christ nous a laissée dans notre vie. Quelque chose que malheureusement, et vous le constatez vous aussi, nous voyons disparaître eh bien, de plus en plus aujourd'hui parce que l'homme tout simplement a de plus en plus ce désir de s'attacher au monde, de s'attacher à sa pensée et à tout ce que le monde va lui proposer. De nos jours, beaucoup sont les chrétiens qui veulent vivre avec Dieu tout en marchant sur un chemin large et spacieux. Beaucoup sont ceux qui ne veulent plus se conformer à la parole de Dieu, ou du moins à la totalité de la parole de Dieu. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, peut-être qu'à vous, ça vous est déjà arrivé, mais combien de fois j'ai entendu des frères venir vers moi et me dire, mais Franck, je comprends très bien ce que tu dis, mais de nos jours, eh bien, il faut que toi aussi tu arrives à comprendre qu'on ne peut pas vivre comme ça. Il faut évoluer, il faut s'adapter à notre époque parce que c'est trop compliqué. Mais la vérité, et c'est ce que je leur réponds, c'est que Jésus-Christ a dit, efforcez-vous. C'est ça qu'il nous a dit. Et Paul va écrire dans sa lettre aux Corinthiens, il va dire comme ceci, « Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. » Il dira, « Ils le font pour obtenir une couronne de vie qui va se détruire, mais nous, c'est pour une couronne indestructible que nous combattons finalement. » Il dira même, lui-même, il va dire, « Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, au contraire. Je traite durement mon corps et je le discipline. » Il dira, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. C'est ce que Paul va nous enseigner. Et dans sa lettre aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens au chapitre 9 et au verset 24, il va dire,
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Et il va rajouter, courez de manière à le remporter. Il nous encourage à persévérer, à nous efforcer pour faire partie de ceux qui allons courir de manière à remporter ce prix de l'appel céleste. Tous ceux qui participent à cette glorieuse course de la foi doivent savoir qu'il faut le faire de tout leur cœur, en ayant la conviction qu'ils vont remporter cette course. Parce que celui qui part, eh bien déjà avec la défaite dans le cœur, il va avoir des difficultés à avancer durant cette course qui est difficile. C'est une course, c'est vrai, qui demande de gros efforts de notre part, mais il faudra les faire. Parce que si cette course est spirituelle, nous savons déjà que notre chair aura des désirs qui seront contraires à l'effort et à l'attitude qu'il nous sera demandé d'avoir durant cette course. Voilà pourquoi nous devons nous battre et discipliner notre corps pour ne pas être, nous non plus, comme le disait Paul, disqualifiés avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Ce qui nous amène à notre verset de référence, et nous allons le prendre, il se trouve dans Hébreux, au chapitre 12, et à partir du verset, enfin, on va lire le verset 1 et 2. Hébreux, chapitre 12, verset 1 et 2. Je vois que les bibles se tournent, c'est bon. Hébreux, chapitre 12, verset 1 et 2, il est dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert sur la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Paul commence en réalité par nous expliquer que nous sommes entourés d'une foule nombreuse de témoins, nous l'avons lu ensemble. Et ces témoins, frères et sœurs, eh bien, ce sont les hommes et les femmes qui ont couru avant nous et qui ne se sont pas découragés durant leur course, aussi difficile fut-elle. Au contraire, toutes ces personnes ont su vaincre la peur, elles ont su vaincre la douleur, le péché, le monde et tout ce que le monde leur proposait pour rester fidèles à la parole de Dieu et ainsi obtenir eux aussi cette couronne de vie que Dieu promet aux vainqueurs. Et la parole de Dieu va le dire, elle dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Et je vous encourage vivement à relire tout le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, si vous pouvez, et je pense que vu les temps de confinement que nous sommes en train de vivre, eh bien, vous avez le temps de le faire, et relire ce chapitre 11 parce que ce chapitre 11 fait mention d'une foule de témoins qui nous prouvent encore aujourd'hui que nous ne luttons pas en vain, mais qu'il est possible d'arriver à passer cette ligne d'arrivée. Vous savez, il est très facile de se décourager si nous gardons nos yeux fixés sur le monde, si nous gardons nos yeux fixés sur ce que le monde nous propose et sur le nombre impressionnant de chrétiens qui abandonnent la course en cours de route. Mais le vrai disciple, lui, est un coureur qui ne renonce jamais. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la puissance de Dieu est quelque chose qui vient alimenter sa vie et lui donne chaque jour la force de continuer. Et ça, c'est quelque chose que nous devons absolument garder dans notre cœur. La puissance de Dieu va alimenter notre vie pour nous donner la force de continuer tous les jours. Je l'ai dit tout à l'heure, la course, c'est une course, la course à laquelle nous participons, bien sûr, est une course qui est difficile. Mais ce n'est pas une course qui est impossible. Et cette nuée de témoins est là pour nous le rappeler. Ils sont là comme pour nous dire « repousse le péché, repousse les tentations que le monde te propose parce que la victoire existe, parce que la victoire est possible ». Leur témoignage, en réalité, pourrait nous dire de cette façon, elle pourrait nous parler et nous dire « nous avons vaincu, nous avons lutté jusqu'à la mort et nous ne sommes pas tombés parce que nous avons su rester cachés en Jésus et parce que nous avons su aussi garder précieusement sa parole dans notre cœur. » Et il pourrait nous dire comme ceci, « Alors courez avec patience, continuez, même si vous êtes fatigués, n'arrêtez pas, ne vous relâchez pas parce que si vous restez ancrés vous aussi en Jésus-Christ, alors vous allez être vainqueurs. » Et cette multitude de justes qui est mentionnée dans ce chapitre 11, et là, pour attester d'une grande vérité biblique que tout le monde connaît, mais que je vais rappeler ce soir, cette vérité biblique qui dit que le juste vivra mais vaincra aussi par la foi. Il vivra sur la terre par la foi, mais c'est aussi par cette même foi qu'il pourra vivre éternellement dans la nouvelle Jérusalem céleste aux côtés de Dieu, parce qu'il aura vaincu. C'est ça le prix dont Paul disait « courez, courez de manière à le remporter ». La suite de notre verset disait « rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement ». Paul commence par nous encourager à rejeter tous les fardeaux que nous avons encore dans notre vie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il sait que nos fardeaux peuvent non seulement nous empêcher de bien courir, mais qu'en plus, ils peuvent nous faire tomber pendant la course. Vous savez, aucun athlète de haut niveau ne court avec du poids supplémentaire sur lui. Au contraire, il va chercher à se débarrasser de tout le surpoids qui pourrait le ralentir afin d'être certain de quoi ? Eh bien, certain de franchir la ligne d'arrivée le premier. Et il en va de même pour tous les disciples de Christ, frères et sœurs. Cette course que nous faisons a une différence, c'est qu'elle ne dure pas 500 mètres, elle ne dure pas non plus 5 kilomètres, mais elle dure toute une vie. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas continuer à nous encombrer de fardeaux inutiles dans notre vie. Parce que tout le poids supplémentaire que nous allons rajouter sur notre cœur sera pour nous un fardeau qui va nous ralentir ou pire. Si ce fardeau devient trop lourd, eh bien, il va peut-être nous amener à abandonner la course. Écoutez, je ne sais pas quel fardeau, eh bien, quel est le fardeau qui vous encombre le cœur ce soir, mais ce que je sais, c'est que tout ce qui ne concerne pas Jésus est un frein qui vous empêchera peut-être d'arriver au bout de la course, vous entendez ? C'est peut-être parfois compliqué à entendre comme ça ou difficile parce que ce n'est plus cette doctrine que nous voulons entendre, mais pourtant c'est la vérité. Tous les fardeaux que vous avez dans la vie et qui vous empêchent et qui ne concernent pas finalement Jésus-Christ, eh bien, sera un frein qui va vous empêcher d'arriver au bout de la course. Voilà pourquoi, si votre cœur est encombré par le poids pesant d'une carrière professionnelle, comme c'est le cas pour beaucoup, d'un style de vie plus aisé ou d'une culture à préserver, c'est aussi beaucoup le cas chez certains, ou n'importe quelle autre chose, prenez la chose eh bien qui vous tient le plus à cœur, si cette chose vous ralentit, si elle vous alourdit pendant votre marche avec Dieu, alors il faut absolument vous en débarrasser rapidement parce que sinon, eh bien, vous pouvez être certain que ce fardeau finira par vous entraîner vers la défaite. Vous savez, frères et sœurs, nos regards doivent être tournés vers Christ et non pas dans ce monde ou dans ce qu'il propose. C'est aussi quelque chose que Jésus nous a rappelé à maintes et maintes reprises. Alors, je ne dis pas qu'un bon travail ou avoir une belle maison nous empêchera forcément de courir. Mais ce que je dis, c'est que si tout cela vient passer avant Jésus-Christ, avant les réunions, avant notre lecture de la parole de Dieu ou avant notre relation personnelle dans la prière avec lui, parce que c'est très important, alors oui, c'est un fardeau dont vous devez vous débarrasser rapidement. En réalité, après avoir rencontré Jésus, notre objectif, celui que nous avons précieusement dans notre cœur, doit être la réussite spirituelle et non pas la réussite charnelle. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous devons comprendre, quelque chose que Paul avait bien compris lorsqu'il a écrit dans Philippiens au chapitre 3 et au verset 7 à 8, nous pouvons le lire ensemble, il a écrit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et même, il dira, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Amen. On va s'arrêter là. Afin de gagner Christ. Il regardait tout comme de la boue. Tout ce qu'il pouvait avoir eu, tout ce qu'il avait obtenu jusqu'à ça, jusqu'au moment où il avait connu Jésus, il l'a regardé comme de la boue. Et bien plus, une fois qu'il a connu Jésus-Christ, Paul s'est dit, eh bien, finalement, tout ce qu'il y a dans le monde, les richesses, toute la gloire que le monde pourrait me proposer, n'est rien en comparaison, eh bien, à Jésus-Christ. Et il regardait tout comme de la boue. Mais vous savez, les fardeaux que nous avons peuvent aussi être des difficultés, des soucis de toutes sortes que va nous présenter le chemin de la vie, parce qu'il faut l'avouer. Nous vivons dans un monde compliqué et le chemin de la vie, ce chemin que nous traversons, eh bien, nous amène à rencontrer tout un tas de difficultés qui viennent peser sur notre âme. C'est pour ça que il est important, impératif pour nous tous, d'avoir une véritable relation avec Dieu. Parce que sans cette relation avec Dieu, eh bien, nous ne serons pas capables de déposer nos fardeaux à ses pieds et de comprendre qu'il est le seul à pouvoir agir sur la situation désespérée par laquelle je suis en train de passer aujourd'hui. Voilà pourquoi la relation avec Christ est si importante. Vous savez, rien n'est trop grand pour Dieu. Rien. Mais encore faut-il être capable de réellement lui laisser notre fardeau sans essayer d'agir par nous-mêmes. Et ça, agir par nous-mêmes, c'est une erreur que nous faisons trop souvent. Peut-être par manque de confiance en lui, je ne sais pas. Chacun, eh bien, le reconnaîtra dans son cœur. Mais nous devons absolument comprendre que seul Jésus a le pouvoir d'ôter de notre vie les fardeaux qui nous épuisent. Et ce, quel que soit le fardeau, que ce soit une maladie, que ce soit une dépression, que ce soit un mal-être ou une dépendance quelconque à quelque chose, seul Jésus peut nous en libérer si, parce qu'il y a un si nous le laissons pleinement agir dans notre vie. Et ça, c'est important, encore une fois, de comprendre. Il y a ceci. Vous savez, Jésus n'est pas venu nous promettre une vie facile. Mais par contre, il nous a promis une vie où il marcherait à nos côtés. Et finalement, le plus lourd des fardeaux, si on regarde bien, c'est de vivre sans Jésus. Un fardeau, eh bien, que nous n'avons pas, en tout cas ce soir pour nous tous, je l'espère. Il y a de nombreux fardeaux qui peuvent nous empêcher de courir. Et je viens d'en citer quelques-uns, mais je pense que Paul voulait en souligner un en particulier. Si l'on regarde attentivement, eh bien, le verset de référence que nous avons lu, nous allons voir que notre verset suit le chapitre 11, qui est le grand chapitre sur la foi. C'est la raison pour laquelle je pense que Paul voulait attirer notre attention sur le doute. Eh oui, le doute. Parce que le doute est un fardeau qui nous concerne tous. Un fardeau qui vient s'opposer à la foi que nous plaçons en Dieu. Une foi qui doit être une ferme assurance. Et que nous voulions le reconnaître ou pas, le doute est l'arme privilégiée du diable contre chacun de nous. Écoutez, si la foi nous permet de vivre des miracles, et nous le savons, le doute nous empêchera de les voir s'accomplir. Ça, je vous le garantis, je l'assure. Le doute peut rapidement devenir pesant dans notre vie et il peut nous empêcher de continuer notre course. Et si nous laissons le doute grandir dans notre cœur, alors croyez-moi, il sera capable de détruire notre confiance en Dieu. Frères et sœurs, je vous le dis de tout mon cœur, vous savez, le doute est capable d'engendrer dans le cœur du plus fidèle des chrétiens, s'il le laisse et s'il l'alimente, il est capable d'engendrer dans son cœur de la crainte, de l'inquiétude et même de la peur. Si nous le laissons dans notre cœur, si nous l'alimentons, le doute est même capable de finir par nous amener à devenir incrédules. Et le seul moyen que nous avons de le combattre finalement, c'est de nous appuyer totalement sur la fidélité de Dieu et de nous attacher pleinement à toutes les promesses qu'il y a dans sa parole. Tous les hommes de Dieu ont dû faire face au doute. Tous les hommes de Dieu. À un moment de leur vie, ils ont fait face au doute et tous les croyants y seront confrontés. Nous allons tous passer par des doutes. Mais quel que soit le doute qui se trouve dans votre cœur ce soir, vous devez le combattre sans attendre et ne jamais lui laisser gagner du terrain, jamais. Nous devons véritablement apprendre à débarrasser notre cœur de toute la crainte pour la remplacer par un sentiment de confiance absolue dans la fidélité de Dieu. Et si l'on lit la parole de Dieu, on va retrouver dans le livre d'Ésaïe au chapitre 12 et au verset 2, il est écrit « Voici Dieu et ma délivrance ». Il dit « Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien ». Pourquoi ? Eh bien, il le rajoute, il dira « Parce que l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges ». Il dira « C'est lui qui m'a sauvé ». Mais que je sache, c'est aussi celui qui nous a sauvés. C'est la raison pour laquelle nous devrions nous aussi réagir de cette façon et dire « Moi, je suis plein de confiance en Dieu, je chasse le doute de ma vie, je lève ce fardeau qui pèse sur mon âme et je ne crains rien parce que l'Éternel est ma force et il est le sujet de mes louanges. » Vous savez, Paul savait que beaucoup de choses pouvaient devenir des fardeaux pour tous les disciples de Christ. Nous en avons vu tout un tas. Mais il savait aussi, et nous l'avons lu dans notre verset de référence, que le péché nous enveloppe facilement, c'est ce qu'il a dit. Il y a tellement de tentations et de péchés qui essaient de nous envelopper pour nous empêcher de courir. Vous serez tous d'accord avec moi si je vous dis qu'il est impossible à quelqu'un d'arriver à courir si nous sommes enveloppés dans quelque chose. Nous ne pouvons pas bouger, alors encore moins courir, vous comprenez? Si nous prenions le temps de faire une liste des péchés qui peuvent nous envelopper, parce que c'est quelque chose que nous avons peut-être avec la jeunesse fait à plusieurs reprises, essayer d'établir une liste des péchés qui essayent de nous envelopper régulièrement, et si nous essayons de faire la même chose avec le chrétien, je pense que le péché qui reviendrait le plus souvent pourrait être la convoitise. En tout cas, c'est celui qui ressortait le plus souvent de nos réunions. La convoitise. Dieu nous permet d'avoir quelque chose et nous sommes heureux lorsqu'il nous le donne. Nous remercions le Seigneur, nous le louons de tout notre cœur, mais l'instant d'après, nous arrivons à retomber dans ce travers de croire que nous n'avons pas assez et nous cherchons de nouveau à posséder plus. Et ça, c'est quelque chose qui est humain, ou plutôt, je dirais, quelque chose qui est charnel. Et même si je n'attends aucune réponse de votre part, je pourrais quand même vous poser cette question. Qui, dans ce monde, ne cherche pas à posséder plus que ce qu'il a déjà? Mais, vous savez, la convoitise, en réalité, n'est pas très loin devant l'orgueil, la critique, la colère, derrière le langage, quelque chose qui, malheureusement, eh bien, est en train aussi d'évoluer, même dans les foyers chrétiens, derrière la jalousie, devant le mépris et tellement d'autres péchés qui sont régulièrement pratiqués par des disciples de Christ, alors qu'en réalité, ces péchés-là devraient tous être chassés de notre vie. Et je vous le dis ce soir, toutes ces choses sont le résultat d'une marche charnelle. Pourtant, la Bible dit que Dieu appelle ses enfants à se laisser guider par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Eh bien, pour qu'ils puissent pratiquer le fruit de l'Esprit et non pas les œuvres de la chair. Alors, je ne dis pas qu'il n'arrivera jamais un chrétien de pécher accidentellement. Mais ce que je dis, c'est qu'il doit veiller à ne jamais demeurer dans le péché qu'il a commis. Dieu nous appelle à nous sanctifier et non pas à nous souiller. Et l'apôtre Jean est celui qui va dire « Celui qui est né de Dieu demeure en Dieu et il ne pratique pas le péché. » Tout le monde connaît ce verset. Mais il dira « Mais celui qui pratique le péché n'a pas vu Dieu. Il ne l'a pas connu. » Écoutez, on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas paraître saint lorsqu'on est avec d'autres chrétiens et demeurer dans le péché sous prétexte que nous sommes justifiés par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Au contraire, la Bible enseigne que le péché, c'est la rébellion de l'homme contre Dieu. Et Dieu est très clair lorsqu'il dit que l'on ne peut pas être en partie du royaume des cieux et en partie de ce monde. Dieu exige que nous fassions un choix qui doit être fait là, dès maintenant, dès ce soir. Paul va dire dans Hébreux chapitre 12 au verset 14, il va dire, tout le monde connaît ce verset, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et se sanctifier, c'est commencer par vouloir rejeter le péché de notre vie pour ne plus le pratiquer. Notre course spirituelle, frères et sœurs, est une course qui demande de se sanctifier jour après jour, mois après mois, année après année, jusqu'au moment où Jésus reviendra chercher son Église, ou jusqu'au moment où nous irons nous-mêmes vers lui. La suite de notre verset de référence disait « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » À l'époque de Paul, beaucoup le savent, les Hébreux qui avaient accepté Christ comme leur sauveur personnel avaient cette fâcheuse tendance à mettre leur foi en danger parce qu'ils retournaient régulièrement leur regard vers le judaïsme. Ils se laissaient distraire par des hommes qui les encourageaient à continuer de pratiquer certains rites juifs. Et l'apôtre Paul va leur rappeler que celui qui détourne son regard de Christ et de sa parole est en grand danger spirituel. Voilà pourquoi aujourd'hui plus que jamais, nous devons prendre conscience que détourner notre regard de Jésus revient à se diriger vers un échec et vers une défaite. Mais fixer les regards sur Jésus, vous savez, c'est commencer par comprendre qu'il faut regarder Dieu et non pas les hommes. Le psaume 118, verset 8 va dire « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Beaucoup l'ont peut-être lu. Et c'est une réalité que peut-être beaucoup d'entre vous avaient aussi déjà vécue. Tous ceux qui se sont appuyés sur des hommes plutôt que sur Dieu ont fini par être déçus. Et ce n'est pas pour rien que la Bible nous apprend à nous tourner constamment vers Dieu. Parce que seul Dieu est juste, seul Dieu est droit, et seulement en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation dans sa parole. Écoutez, Quand bien même je voudrais moi-même ou votre pasteur de tout son cœur se comporter du mieux possible pour chacun d'entre vous et essayer d'être un exemple à vos yeux, eh bien, nous n'en restons pas moins des hommes faibles et certainement qu'un jour, sans le vouloir, bien sûr, eh bien, nous pourrions vous décevoir. Nous devons être capables, en réalité, en tant qu'hommes, de reconnaître ce que nous sommes. Et si l'un d'entre vous tourne ses regards continuellement vers un homme, un pasteur, n'importe quel homme sur la terre, s'il garde ses regards fixés sur lui au lieu de les fixer sur Jésus, je vous le dis avance, vous allez être déçus. Alors bien sûr que nous sommes là pour nous aider, pour nous exhorter, mais celui qui est digne de confiance en réalité s'appelle Jésus-Christ. Et c'est vers lui que vous devez tourner vos regards pour chaque situation de votre vie. Frères et sœurs, celui qui s'appuie sur l'homme ne fera que s'enfoncer dans ses problèmes, mais celui qui se confie véritablement en Dieu trouvera toujours une solution à son problème. C'est la différence qu'il y a entre Dieu et les hommes. Et le psaume 16 au verset 8 va le dire. Il dit « Je garde constamment mes yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. » Apprenons nous aussi à ne confier qu'en Jésus. J'ai vu tellement de chrétiens quitter les églises et se perdre parce qu'ils avaient été déçus de l'attitude d'un frère, d'une sœur ou même d'un pasteur. Et c'est quelque chose qui est triste parce que la réalité, c'est que cela démontre que ce sont des personnes, des hommes ou des femmes qui ont passé plus de temps à se confier avec l'homme qu'à connaître l'amour et la fidélité de celui qui a donné sa vie pour sauver la nôtre. Et nous ne devons pas lâcher la main de Dieu à cause de l'imperfection d'un homme ou d'une femme, à cause de l'imperfection d'un frère ou d'une sœur dans l'Église, non. Vous savez, cela me rappelle une histoire, lorsque je venais de me convertir, j'étais tout jeune converti, et très rapidement j'ai lu la parole de Dieu, il me semble peut-être l'avoir lu en moins de 3 mois, mais je me suis fait une image de l'Évangile, une image de cette parole qui est venue se mettre dans mon cœur, et du coup j'idéalisais l'Église. Je voyais l'Église à l'image de cette parole. Et lorsque je suis rentré dans cette église, puisque je ne suis pas né chrétien, lorsque je suis rentré, que j'ai commencé à fréquenter les chrétiens de l'église, que j'ai commencé à voir le cœur des pasteurs, à voir tout un tas de choses autour de moi, eh bien, je me suis rendu compte que tout cela ne correspondait pas forcément avec tout ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai été déçu. Et la première pensée qui m'a traversé mon esprit, c'était de me dire, mais Franck, alors en réalité, eh bien, tu ne dois pas te trouver dans l'Église. Il faut que tu cherches autre chose. Alors, je me suis mis devant Dieu. Parce que, malgré tout, j'avais eu quand même cette chance d'avoir une véritable relation avec Dieu. D'où l'importance d'en avoir une. Parce que le fait d'avoir une véritable relation avec Dieu, eh bien, cela m'a poussé à prier et à mettre ma peine, ma tristesse, mon problème devant le Seigneur. Et lorsque je l'ai mis devant Dieu, je lui ai dit, « Seigneur, regarde ce qui se passe, tu vois ce que je vis, mais ce n'est pas ce que dit ta parole, mais il se passe ça, etc. » Et là, Dieu m'a parlé. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu ne m'a pas dit, « Tu as raison, pars de cette église, laisse-la, elle n'est pas à ma gloire. » Ce n'est pas ça que Dieu m'a dit. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit comme ceci. Et je vous le garantis, il me l'a dit textuellement. Il m'a dit, « Franck, s'il existait sur la terre une église où les hommes n'avaient pas de défauts, crois-tu que cette église voudrait de toi ?» Eh bien, je vous garantis qu'avec la réponse de Dieu, je me suis remis en question et je me suis dit, « C'est vrai, Seigneur, moi-même, je suis imparfait et je dois arrêter de fixer mes regards sur les hommes, mais je dois plutôt les fixer sur ta parole parce que toi, tu es différent de tout cela. Toi, tu m'apportes quelque chose de particulier. Tu es celui qui me réconforte lorsque j'ai un problème. Tu es celui qui vient et qui me lève eh bien, lorsque je tombe par terre. Et c'est pour ça, Seigneur, que je fixerai à partir de maintenant mes regards vers toi. » Et ça, c'est quelque chose que nous devrons tous faire, fixer nos regards sur le Seigneur. Fixer nos regards sur Jésus, vous savez, c'est aussi ne plus se regarder soi-même pour porter notre attention sur la personne de Christ et sur son œuvre. Parce que la seule façon que nous avons pour faire de Jésus le centre de notre vie, eh bien, c'est de ne plus nous regarder nous-mêmes pour le regarder à lui. D'ailleurs, Jésus va dire à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Et tout le monde connaît ce verset. Une personne qui ne renonce pas à elle-même aura toujours ses regards fixés sur sa vie personnelle. Et vous savez quoi? Eh bien, cette personne cherchera toujours à la combler par ce qu'offre le monde, au lieu de renoncer à tout pour gagner Christ et faire la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul, lui, va dire dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 2, il dira « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » En d'autres termes, l'apôtre Paul va dire « Regardez ce qui est en haut et arrêtez de regarder ce qui est sur la terre. » Et ce soir, il est essentiel pour nous de nous rappeler que Dieu et son œuvre doivent être notre priorité dans la vie. Si notre cœur ne se tourne pas vers les richesses célestes que Dieu nous offre, écoutez bien, alors nous serons forcément attirés vers ce que le monde va nous proposer. Et au lieu de préparer notre avenir céleste, nous allons nous occuper de notre vie terrestre en oubliant que rien de ce que nous allons acquérir sur la terre ne pourra nous offrir la couronne de vie. Il y a une chose évidente à savoir. Plus je porte mes regards vers Dieu, et plus l'attraction pour les choses terrestres va diminuer dans mon cœur. Et je vous garantis que c'est comme ça. Plus je passe du temps, plus je passe des moments avec Dieu, et moins je passerai du temps dans le monde, et moins le monde m'attirera, et moins toutes ces choses qu'il me propose, eh bien, vont venir directement dans mon cœur et créer en moi, eh bien, cette envie de les posséder. Parce que dans mon cœur, si je passe du temps avec mon Seigneur, dans mon cœur va régner l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour ce Dieu qui a été là à donner son Fils unique en sacrifice pour chacun d'entre nous parce que il nous a aimé le premier. Et en réalité, si nous l'aimons aujourd'hui, eh bien, nous ne faisons que lui rendre l'amour qu'il nous a lui-même donné le premier. Et je vous dirai, l'amour que nous lui rendons n'est pas à la hauteur de l'amour qu'il a pour chacun de nous. Mais nous devons nous efforcer à le faire. Vous savez, le monde nous propose constamment tout un tas d'activités, tout un tas de distractions qui nous pousseront à ne plus porter notre attention sur Christ et sur son œuvre. Et je vous le dis, des distractions qui seront là pour nous écarter du but et pour nous encourager à abandonner cette course à laquelle nous participons. Et ne croyez pas que cela n'arrive qu'aux autres, parce que la Bible dit clairement que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'athlète est un homme ou une femme qui reste concentré sur son objectif. Et si nous ne faisons pas la même chose, alors vous pouvez être certain que nous aussi, eh bien, nous allons peut-être faire partie de ceux qui n'achèvent pas la course. Paul va dire à Timothée, et je vous le rappelle rapidement, il dira « Démas m'a abandonné pour le siècle présent ». Et je suis désolé, mais Démas était pourtant un homme qui marchait aux côtés de Paul, un homme qui avait reçu l'enseignement de Paul, pas le mien, celui de Paul. C'était pas n'importe qui, l'apôtre Paul. Eh bien, pourtant, malgré tout ce qu'il a pu entendre de Paul, parce que Démas n'a pas su renoncer à lui-même et garder son regard fixé sur Jésus et sur son œuvre, il a fini par perdre pied, et par abandonner la course. Donc, je le répète, ne croyons pas que cela n'arrive qu'aux autres. Je vais finir avec ça. Fixer les regards sur Jésus, c'est aussi pour moi avoir l'assurance que rien en ce monde ne pourra me vaincre. Aucune épreuve ne pourra me renverser. La vérité, c'est que nous avons besoin des forces que Dieu nous donne pour arriver à finir la course. Sans lui, nous n'y arriverons pas. Parce que les puissances contre lesquelles nous nous battons au quotidien sont des puissances qui nous dépassent totalement. Et ça, il faut en être conscient. Sans l'aide de Dieu, nous ne serions même pas capables, et je le dis ce soir, même pas capables de repousser les œuvres et les envies de notre propre chair. Paul va écrire dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 57. Il va dire « Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les victoires que nous aurons dans notre vie sont des victoires que nous allons pouvoir avoir grâce à Dieu, grâce à l'amour de Dieu, grâce à la puissance de Dieu et grâce à la présence de Dieu dans notre vie. » Frères et sœurs, détourner le regard de Jésus revient à mettre de côté la puissance de Dieu dans notre vie. Et la puissance de Dieu est cette puissance qui nous donne la force d'être victorieux en toutes circonstances par la foi en celui qui nous a aimés plus que sa propre vie. Et si quelqu'un connaît bien le danger qu'il y a de ne plus fixer ses regards sur Jésus, eh bien, je dirais ce soir que c'est bien l'apôtre Pierre. Rappelez-vous de cette histoire qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. Les apôtres sont là, ils sont dans une barque en pleine tempête, et vers le milieu de la nuit, ils aperçoivent Jésus venir vers eux en train de marcher tranquillement sur les eaux. Pierre va regarder Jésus, et puis il va lui dire, « Mais Seigneur, si c'est bien toi, alors ordonne-moi de venir jusqu'à toi, ordonne que je te rejoigne sur l'eau. » Et Jésus va lui dire, « Eh bien, viens !» Et là, avec le cœur rempli de foi et le regard porté sur Christ, Pierre va enjamber la barque, il va sortir de la barque et il va marcher sur l'eau à son tour. Et je vous le dis, ce soir-là, cette nuit-là, Pierre a vécu une situation extraordinaire, c'est vrai, marcher sur l'eau. Qui est capable de le faire? Eh bien, Pierre l'a fait. Quelle situation extraordinaire dans sa vie. Pourtant, la Bible dit qu'à un moment donné, Pierre a remarqué que le vent soufflait autour de lui, il soufflait fort. Et alors, il a pris peur, ce qui l'a amené à s'enfoncer tout doucement dans la mer. Vous voyez, tant que notre regard, ou tant que le regard de Pierre dans cette histoire a été fixé sur Jésus, rien ne pouvait l'atteindre. Il pouvait même défier les lois de la nature. Mais lorsqu'il a commencé à être distrait par ce qui se passait autour de lui, sa foi a vacillé et la puissance de Dieu ne pouvait plus agir sur sa vie. Frères et sœurs, il est bien important de comprendre ceci. Si nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, je vous assure que rien dans ce monde ne pourra être trop grand ou trop puissant pour vous. Chaque épreuve et chaque situation que vous allez vivre pendant votre cours spirituel pourra être surmontée et gagnée par la puissance de Dieu, et uniquement par la puissance de Dieu, je le dis bien. Mais si vous commencez à écouter ce que disent les gens autour de vous, si vous commencez à écouter les amis, à écouter la famille qui peut-être vous décourage, si vous commencez à vous laisser effrayer par les épreuves et les difficultés qui vous entourent, et si vous regardez ailleurs qu'à Jésus-Christ, sachez que vous aussi, vous allez finir par vous enfoncer dans les problèmes qui se présenteront à vous. Alors c'est vrai que vous n'allez pas couler dans la mer comme Pierre l'a fait, mais ce sera dans l'inquiétude, dans la tristesse, dans le découragement et peut-être même dans l'angoisse. Jésus-Christ est celui qui a rendu l'existence de cette course à laquelle nous participons tous, possible par sa mort et sa résurrection. Mais il est aussi celui qui rend la victoire de cette course possible par sa présence à nos côtés et par la force qu'il sera en mesure de donner à chacun de ses disciples pour les aider à remporter la couronne de justice qui revient au vainqueur. Voilà pourquoi il est tellement important durant cette course de bien veiller à garder nos yeux fixés sur Jésus. Écoutez, et je finis vraiment avec cette phrase. Ne quittez jamais, jamais Jésus des yeux. Gardez-le toujours dans votre cœur afin qu'il fasse votre bonheur, mais qu'il vous permette de vaincre et de remporter la victoire dans cette course. Amen. Voilà. Je vais laisser la place à Monsieur Basile. Il n'y a pas le micro. Je vais prier, ça ne vous dérange pas, Monsieur Basile.
Vas-y.
Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je veux te remercier pour ces moments que nous passons avec toi. Seigneur, te remercier et te demander d'agir, Seigneur, dans nos cœurs, dans mon cœur, dans celui de mes frères et sœurs, parce que, eh bien, Seigneur, nous ne sommes que des hommes, et c'est vrai que toi, tu es celui qui, eh bien, par ton Saint-Esprit, peut prendre toutes ces paroles qui sont peut-être dites maladroitement et les faire, eh bien, pénétrer dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, dans mon cœur ce soir, afin que nous puissions comprendre que en toi, nous allons avoir une victoire, qu'en toi et en gardant les yeux fixés sur toi, nous pouvons arriver à finir cette course qui est si difficile. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser garer sur ce chemin large, Seigneur, mais à garder, Seigneur, dans notre cœur, précieusement, Seigneur, ce chemin de ta parole qui est peut-être étroit et tortueux, mais qui est le chemin qui mène à la vie. Seigneur, je te remercie, parce que sans toi, eh bien, nous ne serions rien. Sans toi, nous ne pourrions même pas espérer à cette vie éternelle. Et je te remercie parce que en toi, Seigneur, nous avons la victoire. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Amen.